Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le retour de l'actualité sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, voici le sommaire de ce journal. La Chine déploie plusieurs dizaines d'avions pour encercler Taïwan. Les États-Unis appellent à la retenue tout en déployant un destroyer dans des eaux revendiquées par Pékin. Le président américain Joe Biden est en Irlande du Nord pour le 25e anniversaire de l'accord de paix de vendredi saint. Cet accord avait mis fin à un conflit meurtrier qui avait causé des souffrances aux communautés locales. Et vous aurez l'actualité économique avec Nani Talani, suivie du sport avec Yacouba Ouedraogo. L'Éthiopie, pour commencer, des restrictions de circulation nocturne et de réunion ont été imposées à Gondar, plus grande ville de la région de l'Amara. Elles font suite aux manifestations contre le démantèlement de forces militaires régionales à travers l'Éthiopie. Selon un communiqué publié par les autorités municipales, ces restrictions sont décrétées par le poste de commandement de la ville. Le gouvernement fédéral éthiopien a récemment annoncé avoir entamé le processus de réaffectation dans l'armée fédérale ou la police des membres de ses forces régionales. Des gardes-côtes italiens tentent de sauver 1200 migrants entassés à bord de deux bateaux de pêche en Méditerranée. Des opérations qualifiées de complexes en raison de la surcharge de l'embarcation. Le bateau a été localisé dans les eaux italiennes à plus de 190 km au sud-est de Syracuse en Sicile. Un deuxième bateau transportant 400 migrants a été intercepté dans les eaux italiennes. Des milliers de migrants ont atteint l'île de Lampedusa au cours des derniers jours après avoir accompli la périlleuse traversée à bord d'embarcations de fortune depuis les côtes nord-africaines. Au Gabon, 21 personnes ont été inculpées, notamment pour homicide involontaire, dans l'enquête sur le naufrage d'un mini-ferry qui avait fait 30 morts et 7 disparus il y a un mois. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la République de Libreville. La veille, le gouvernement avait annoncé la fin des recherches des corps des disparus près d'un mois après le drame. Le 9 mars dernier, l'Esther Miracle, qui reliait la capitale au port pétrolier de Port-Gentil, a chaviré en pleine nuit et seules 124 personnes sur 161 occupants officiellement recensés avaient pu être secourus. En Algérie, un projet de loi sur l'information renforçant l'encadrement du travail des journalistes a été examiné ce matin par la Chambre haute du Parlement en vue de son adoption. Parmi les principales dispositions du texte figure notamment une interdiction aux médias algériens de bénéficier de tout financement ou aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère sous peine de sanctions pénales prévues par la loi. Une amende pouvant aller jusqu'à près de 14 000 euros est également prévue.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis tentent d'évaluer les risques liés à la fuite de documents classifiés qui concernent notamment l'invasion russe en Ukraine pour leur sécurité nationale. C'est ce qu'a déclaré dimanche le Pentagone. Cette fuite de documents secrets a révélé notamment des évaluations et des rapports des services de renseignement américains liés à la guerre en Ukraine, mais aussi aux alliés des États-Unis. Toujours aux États-Unis, 5 personnes tuées et au moins 6 autres hospitalisées à la suite d'une fusillade ce matin dans le centre-ville de Louisville, dans le Kentucky, un état du centre-est des États-Unis. Un tireur a ouvert le feu dans une banque et a fait plusieurs victimes avant d'être neutralisé, selon les autorités. 6 personnes ont été touchées par les tirs, dont un policier. Le 27 mars dernier, une personne a également ouvert le feu dans une école privée de Nashville, dans le Tennessee, tuant 3 enfants et 3 employés avant d'être abattu par la police. Joe Biden a déclaré ce matin qu'il envisage de se représenter comme candidat à la présidentielle en 2024, mais il a annoncé qu'il n'était pas encore prêt à faire cette annonce publiquement. Les précisions de John Lyndon.
Je compte me présenter, mais nous ne sommes pas encore prêts à l'annoncer, a déclaré M. Biden dans une interview à l'émission Today de la chaîne NBC. Joe Biden a laissé entendre qu'il a l'intention d'être le candidat démocrate en 2024, mais n'a pas fait d'annonce officielle. L'actuel locataire de la Maison-Blanche et Kamala Harris, son actuelle vice-présidente, ont tous deux fait savoir qu'ils se présenteraient ensemble. La partie décision est terminée, mais il n'apprécie pas la pression d'avoir à annoncer ce qu'il a déjà décidé, a déclaré à NBC une source familière avec le dossier. En croire The Hill, un site d'information spécialisé sur les informations au Congrès, Joe Biden, qui aurait 82 ans au début d'un potentiel second mandat, pourrait attendre l'été pour faire son annonce, son entourage estimant qu'il n'y a pas d'urgence majeure.
L'Irlande du Nord marque aujourd'hui dans la sobriété le 25e anniversaire de l'accord de paix du Vendredi Saint, conclu le 10 avril 1998. Après d'intenses négociations impliquant Londres, Dublin et Washington, l'accord a mis fin à trois décennies de violences qui ont fait 3500 morts entre unionistes, surtout protestants, et républicains en majorité catholique, avec l'implication de l'armée britannique. Pour célébrer l'événement, le président américain Joe Biden s'est rendu sur place. Le point avec Eric Maniarakis.
Nous nous souvenons aujourd'hui du début d'un nouveau chapitre pour l'histoire du peuple nord-irlandais, a indiqué dans un communiqué le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui n'avait que 17 ans au moment de la signature de l'accord. Il a affirmé que l'anniversaire était l'occasion de célébrer ceux qui ont pris des décisions difficiles, accepté des compromis et fait preuve de leadership. Aucun événement majeur n'est prévu ce lundi, mais de nombreuses personnalités politiques sont attendues dans la semaine. Le président américain Joe Biden, qui a des origines irlandaises, arrive demain soir à Belfast. L'accord a mis fin à trois décennies de violences qui ont fait 3500 morts entre unionistes et surtout protestants et républicains à majorité catholique, avec l'implication de l'armée britannique. Un quart de siècle plus tard, l'heure n'est pas à la fête entre blocage politique et inquiétude sécuritaire. Les institutions locales créées à la suite de l'accord et censées allier les communautés sont paralysées depuis plus d'un an en raison de désaccords liés aux conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
L'armée chinoise dit avoir mené avec succès ses manœuvres militaires ayant visé à encercler pendant trois jours Taïwan. L'île autonome affirme avoir détecté 12 navires de guerre et 91 avions au dernier jour de l'opération. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Du 8 au 10 avril, le commandement militaire chinois a accompli avec succès diverses tâches de préparation militaire autour de l'île de Taïwan. C'est ce qu'indique l'armée chinoise qui ajoute qu'elle a testé sa capacité de combat en conditions réelles. Le commandement chinois soutient être prêt à n'importe quel moment et résolu à écraser toute forme de séparatisme pour l'indépendance de Taïwan et tentative d'interférence étrangère. Les États-Unis ont appelé à la retenue tout en déployant un destroyer dans des eaux revendiquées par Pékin. La Chine a le droit souverain de réagir aux actions provocatrices des États-Unis, a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. Ces manœuvres chinoises visaient à protester contre une rencontre mercredi entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire.
Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken va se rendre en fin de semaine au Vietnam ainsi qu'au Japon, en pleine tension avec la Chine à propos de Taïwan. Anthony Blinken fera escale à Hanoï en route pour une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G7 au Japon du 16 au 18 avril. Selon un communiqué, il s'agira de la première visite du secrétaire d'État américain au Vietnam depuis sa prise de fonction il y a deux ans, mais la vice-présidente Kamala Harris s'y est déjà rendue. L'Iran envisage de durcir les peines de justice contre les violences faites aux femmes dans le cadre d'un projet de loi dont les grandes lignes ont été acceptées par les députés. La proposition de loi prévoit ainsi une peine de prison allant jusqu'à 15 ans contre 10 actuellement pour un homme reconnu coupable de féminicide. Si la famille de la victime rejette devant la justice le principe d'une condamnation à mort, le projet de loi autorise également la justice à fournir aux femmes mariées une autorisation de sortie du pays, même si leur mari les empêche de voyager à l'étranger. Le texte, qui peut être encore modifié, pourrait être formellement promulgué dans les prochains mois. Et c'est la fin de l'actualité sur la voie de l'Amérique. Nous avons parlé de la Chine qui déploie plusieurs dizaines d'avions pour encercler Taïwan. Les États-Unis appellent à la retenue tout en déployant un destroyer dans des eaux revendiquées par Pékin. Et le président américain Joe Biden est actuellement en Irlande du Nord pour le 25e anniversaire de l'accord de paix du vendredi saint. Cet accord avait mis fin à un conflit meurtrier qui avait causé des souffrances aux communautés locales. Et pour la suite de cette édition, votre magazine Cœur économique d'abord et ensuite le sport avec Yacouba Ouedraogo. Vous êtes les bienvenus à nouveau sur VOA Afrique. Vous suivez le monde aujourd'hui et je vous propose à présent un point de l'actualité économique. C'est avec Nanit Talani.
Des chercheurs agronomes sénégalais ont commencé à récolter une culture expérimentale de blé local adaptée aux conditions climatiques du pays. C'est la dernière étape d'un projet entamé il y a plusieurs années pour tenter de réduire la dépendance à l'égard des importations des céréales, évaluées à 800 000 tonnes par an. Des chercheurs de l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA, sont en train de récolter 4 variétés de blé à Sangalkam, à 35 km de Dakar. 3 de ces variétés proviennent d'Égypte, une quatrième a été développée par l'Institut. Les Marocains ont organisé des manifestations samedi soir dans différentes villes de leur pays pour protester contre la flambée des prix des denrées alimentaires à l'appel d'une coalition de partis de gauche. Le taux d'inflation a atteint 9,4% au premier trimestre de 2023 contre 4% à la même période l'an dernier. Cette inflation est accentuée par la montée en flèche des prix des produits alimentaires avec plus de 18,2% en plein mois sacré du Ramadan. Pour terminer, le taux d'inflation annuel de la consommation urbaine en Égypte a atteint 32,7% en glissement annuel, juste en deçà d'un record absolu contre 31,9% en février, d'après l'agence de statistiques CAPMAS.
Accueillons à présent Yacouba Ouedraogo pour l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous.
Basketball pour commencer avec la fin à Bamako au Mali du tournoi de l'amitié.
Oui, toute la semaine dernière, la capitale malienne a accueilli cette compétition qui a regroupé des filles et garçons de moins de 16 ans. Ce tournoi qui a regroupé le Mali, pays hôte, la Guinée, la Côte d'Ivoire et l'Algérie a servi de préparatif pour l'afro-basket des moins de 16 ans. Prévu en août prochain en Tunisie. Sur place, notre correspondant Siaka Traoré.
En U16 filles, le Mali a battu l'Algérie en finale 84-52. Pour Madame Radia, coach U16 filles Algérie, malgré la défaite, le tournoi a été bénéfique.
Les filles, elles ont découvert qu'il y a beaucoup de l'agressivité. Ça ne joue pas comme le championnat en Algérie.
Moussa Sidibé, coach U16 filles du Mali, a déjà une idée sur sa liste pour l'afro-basket de Tunisie prévu pour le mois d'août.
Ce tournoi, ça nous a permis beaucoup de nous préparer et les jours à venir, comment avoir une équipe pour aller à l'afro-basket.
Le coach UCS garçon de la Côte d'Ivoire, Eloi Ngardenga, a indiqué que son pays est venu au Mali pour apprendre.
Je pense qu'on a beaucoup appris. On repart quand même satisfait, même si on aurait voulu être à la finale quand même contre le Mali.
Justement, en UCS garçon, c'est le Mali qui a remporté la finale face à la Guinée-Conakry, 67-60. Une rencontre très disputée entre les deux formations, Touré et Brahma Souri.
Les jeunes ne sont pas du tout habitués à ça. Nous sommes dans les centres, ne sont pas habitués à jouer les 4-4 ans, les panneaux, 24 secondes, 10 secondes, tout ça là.
À votre retour, c'est quoi le travail?
La condition physique et surtout la collectivité.
Le coach UCS garçon du Mali, Mamadou Kané, s'est dit tout simplement heureux.
Un sentiment de joie, de satisfaction.
Il faut rappeler que le tournoi de l'amitié de Bamako a mis en compétition les UCS filles et garçons de 4 pays, notamment le Mali, pays hôte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Basketball toujours, ici en NBA, les matchs de barrage débutent demain mardi et on revisite le mode d'accession aux play-offs.
Les 6 premières franchises à l'Est, comme à l'Ouest, sont automatiquement qualifiées pour les play-offs. Elles sont pourvues du statut de tête des séries de 1 à 6, déterminées par leur classement à l'issue du championnat. Il reste donc à déterminer les 4 clubs qui viendront compléter la liste des qualifiés issus des barrages baptisés play-in depuis leur instauration en 2020. Pour ce faire, dans chaque conférence, le 7e reçoit le 8e. Le vainqueur sera qualifié avec le statut de tête de série numéro 7. Le vaincu aura une seconde chance. Il recevra le gagnant de l'autre match opposant, le 9e au 10e, sachant que le perdant sera le premier éliminé. Le vainqueur de cette ultime rencontre des play-in sera qualifié pour les play-offs avec le statut de tête de série numéro 8. Les 8 équipes engagées en play-off et les oppositions seront alors connues. Ces play-in débutent demain mardi et prendront fin le vendredi 14 avril. Les play-offs, elles, commenceront le samedi 15 avril.
C'était la page des sports avec Yacouba Ouedraogo que nous remercions. Le monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique, Alexandrine Rolognon, toujours à ce micro pour vous présenter les magazines à présent. Les États-Unis prévoient une aide à long terme pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo afin de contrer la menace grandissante des violences djihadistes qui s'étendent du Sahel aux régions côtières d'Afrique de l'Ouest. Des responsables du département d'État ont souligné l'importance d'un soutien occidental pour empêcher la progression des mercenaires russes Wagner, déployés notamment au Mali. La vice-présidente américaine Kamala Harris a promis 100 millions de dollars sur 10 ans pour renforcer la résilience des régions côtières d'Afrique de l'Ouest lors de sa visite au Ghana en mars dernier, dans le cadre des efforts croissants des États-Unis en Afrique. Eric Manirakis a joint à Nouakchott Amédou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara.
Je pense que cette proposition, ce programme politique américain est bienvenu. Toute aide dans la lutte contre le terrorisme est une bonne chose. Mais je dois préciser que les Américains avaient fait en 2002-2003 un excellent programme qui s'appelle le Pan-Sahel Initiative. Et malheureusement, ce programme, ils l'ont arrêté très tôt. Et il faudrait donc que celui qui le propose, pour cette région qui en a besoin et qui a le cadre légal et sécuritaire adéquat pour réussir, il faut qu'il soit mis en place avec consistance, avec continuité et en coopération avec le gouvernement de la région. Je pense que c'est une excellente chose.
Pour vous, cette aide devrait s'inscrire donc dans la continuité de ce programme qui n'a pas continué. Mais au niveau de la mise en œuvre, est-ce que cette aide à elle seule suffit pour régler cette question en vue justement de prévenir la percée des djihadistes dans ces pays?
Naturellement, non. L'assistance doit être, oui, militaire, sécuritaire, mais elle doit être aussi économique. Et elle doit être surtout politique. Plus d'ouverture dans les pays, plus de coopération. Et je pense que les gouvernements cités sont disposés, mais il faut les soutenir pour plus de discussions avec les différents segments de la population, les différents partis politiques et les hommes d'affaires, de même que les syndicats. Il faut un complément, c'est un ensemble qu'il faut faire, et le faire de façon régionale et encore mieux.
Cette aide vise aussi à stopper la progression de Wagner dans la région. Est-ce que vous pensez que Wagner ne va pas s'étendre sur ces régions de l'Afrique de l'Ouest, Wagner qui est déjà présent notamment au Mali?
Wagner, ce sont des forces de sécurité privées ou autres, mais tout le monde sait qu'il y a la Russie derrière. Il y a des gouvernements, deux ou trois, qui les ont acceptés dans la région. Il ne faut pas, à mon avis, en faire une obsession. Ce qui est important, c'est que des pays qui sont amis, que ce soit le Niger, que ce soit le Tchad, la Mauritanie, mais surtout les trois pays que vous avez mentionnés, Côte d'Ivoire, Togo et Ghana, puissent bénéficier d'un appui pour la sécurité dans leur pays, pas pour lutter contre Wagner. Donc, à force d'en parler, on donne à Wagner une puissance et une publicité que peut-être est utile pour eux. Mais revenir à la guerre froide dans la région, à mon avis, peut être contre-productif et je le redécommanderai fortement.
Amédou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Bénin, le bâtonnier Jacques Migan est au cœur de la polémique pour avoir déclaré sur une chaîne de télévision locale que les Béninois souhaiteraient un troisième mandat au président Patrice Talon. Des propos qui ont entraîné une vague de réactions au niveau de la classe politique et de la population. Certains auraient voulu du bâtonnier une position tranchée sur la libération des détenus politiques, dont les plus célèbres sont Ricky Amadougou et le constitutionnaliste Joël Aïvo. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
La question sur le nombre de mandats du président de la République a été remise au goût du jour par le bâtonnier Jacques Migan. Si au sein de la classe politique, on promet des actions fortes pour décourager toute tentative au sein de la population, les avis restent partagés. Pour certains, un chef d'État doit respecter la parole donnée, mais pour d'autres, un troisième mandat pourrait permettre à Patrice Talon d'aller au bout de ses rêves pour le Bénin.
On ne peut pas dire que parce que j'ai fait des gratte-ciels, parce que j'ai donné à manger à cause de ça, je dois continuer mon mandat. Mais non, c'est contre la Constitution. Quand toi-même tu voles la Constitution, ça veut dire que tu ne respectes pas la loi. L'exécutif, c'est une continuité. Donc, il faudrait que quelqu'un continue le travail. Donc, je ne pense pas que ça se limite à une seule personne.
Comment
je
pense qu'on peut lui donner encore une autre chance de pouvoir continuer ses travaux, les finir?
C'est vrai que tout est dur, mais au moins on voit les effets, on voit ce qu'il fait.
Moi, je préfère qu'après les 10 ans du président Talon, qu'il laisse carrément le pouvoir pour pouvoir permettre et à d'autres Béninois de pouvoir diriger cette nation. Moi, je n'aimerais pas qu'il revienne faire un troisième mandat.
Invité d'honneur de la deuxième édition du sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie, tenu à Cotonou le 10 juillet 2021, Patrice Talon a été clair sur sa détermination à laisser le pouvoir en 2026.
L'évidence est claire. Limiter le mandat est à tous égards au profit du peuple. Je m'associe pleinement à votre action et je m'engage devant vous à la défendre. Mes prédécesseurs l'ont montré. J'ai simplement à faire comme eux, afin que ceux qui vont venir après continuent de faire comme nous. Donc au Bénin ici, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. Et devant vous, combien je veux m'engager et vous prendre à témoin pour passer ce relais le troisième dimanche du mois de mai 2026 à celui qui aura la confiance du peuple béninois.
Pendant que le débat attise les passions, l'opposition travaille à honorer l'une de ses promesses électorales liées à la libération des détenus politiques et au retour des exilés. Mourinho Tchadé est le président du groupe parlementaire Les Démocrates.
Conformément à l'article 98 de la Constitution, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont initié une proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels et contraventionnels mis à leur charge de 2017 à nos jours.
Le président du parti Restaurer l'Espoir est du même avis, Candide Azanaï.
Je voudrais réitérer d'un côté notre exigence de la libération sans délai et sans condition de tous les détenus politiques et de l'autre, la levée de tous les obstacles susceptibles d'entraver le retour apaisé de tous les exilés politiques.
De Cotonou, Sénégal, les pouvoirs africains.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM. À Tripoli en Libye, des salles de jeux vidéo ultra modernes voient de plus en plus le jour. Isolés par le règne de Muammar Kadhafi, puis par une décennie de chaos, des Libyens passionnés de e-sport commencent à s'organiser en communauté pour vivre leur passion. Davantage avec Yacouba Ouedraogo.
En pleine nuit de Ramadan, dans un immeuble de Tajoura, dans la banlieue de Tripoli, des adolescents, écouteurs vissés sur les oreilles, ont le regard rivé sur leurs écrans incurvés, dernier cri. Assis derrière un volant, ce jeune fait rouler en trombe une voiture de course. D'autres sont immergés dans des parcours en réalité virtuelle. Ce type d'espace n'a rien d'ordinaire en Libye. Sofiane Matous, superviseur de la salle de jeu.
Il y a 5 ans, il n'y avait aucun centre de jeu en Libye, pas un seul tournoi, rien. Mais au cours des 2 dernières années, nous avons commencé à organiser des tournois. Aujourd'hui, tous les centres en Libye organisent des tournois avec des prix à la clé.
L'investissement dans les technologies et les divertissements a été ralenti en Libye par plus de 40 ans de règne de Muammar Kadhafi, puis par les affrontements entre camps rivaux depuis 2011. Le long isolement des joueurs explique la forte demande actuelle. Les adolescents peuvent enfin jouer ensemble, et s'éloigner de certains vices. Sofiane Matous.
Cette salle rassemble des jeunes qui souhaitent jouer, participer à des tournois de jeux, changer d'air au lieu de traîner dans les rues.
Une demi-douzaine de salles modernes ont vu le jour à Tripoli, sans compter d'autres villes comme Benghazi dans l'Est. Une fédération d'e-sport a même été lancée en 2018 et des tournois sont de plus en plus fréquents. Confortablement installés sur des poufs ou juchés sur des tabourets, des joueurs bruyants s'affrontent par manettes interposées dans des matchs de football ou des combats épiques. Résident en Turquie pour ses études, Youssef Younsi avait l'habitude des petites salles de Tripoli, mais il n'avait jamais vu en Libye des espaces aussi modernes.
J'ai l'habitude de jouer dans des centres, mais c'est la première fois que j'en vois un pareil. Je ne m'attendais pas à trouver des personnes prêtes à fournir de tels services disponibles dans d'autres pays.
Karim Al-Zayani est aussi un étudiant séduit par ces salles de jeux vidéo ultra-modernes.
C'est une excellente idée et un pas en avant pour le pays. Nous espérons que cela se poursuivra en Libye, car cela contribuera, si Dieu le veut, à éradiquer le phénomène des comportements répréhensibles chez les jeunes au sein de la société.
Face à certaines voix critiques, les amoureux de e-sport répondent que les jeux vidéo ne détruisent pas la jeunesse libyenne, mais l'éloigne plutôt de l'ennui.
Après la comparution à New York de l'ancien président Donald Trump, inculpé de 34 chefs d'accusation, ses avocats ont commencé à travailler sur sa défense. Ce n'est que la première des multiples enquêtes auxquelles Trump est confronté et qui, selon certains, espèrent, pourraient avoir des conséquences très graves pour lui et son avenir politique. Véronica Balderas Iglesias s'est penchée sur le sujet. Dilly Dico raconte.
Comment l'ancien président Donald Trump organisera-t-il sa défense après avoir été inculpé dans une affaire de pot de vin et entendu les accusations à son encontre dans un tribunal de New York? Cette information, son avocat James Trustee n'a pas souhaité la partager lors de son interview dans l'émission This Week sur ABC.
Toute personne ciblée par des enquêteurs fédéraux ou des procureurs new-yorkais se replie un peu sur elle-même et se dit que c'est une très mauvaise nouvelle. Je pense que c'est terrible, mais il s'est rapidement tourné vers une vue d'ensemble, le côté historique, et je pense que c'est un mauvais moment pour ce pays.
Monsieur Trump est accusé d'avoir falsifié des documents officiels de l'État de New York pour dissimuler le fait qu'il aurait ordonné le versement de pots de vin à une actrice pornographique qui détenait des informations compromettantes à son sujet juste avant l'élection présidentielle de 2016. Il a plaidé non coupable. L'affaire, chapeautée par le procureur Alvin Bragg, n'a aucun fondement aux yeux de l'ancien procureur général Bill Barr.
La falsification de documents commerciaux est un délit si elle fait partie d'un système frauduleux. Et je ne vois nulle part spécifié ici en quoi consistait exactement la fraude.
Monsieur Barr a cependant ajouté qu'une enquête fédérale plus grave dont fait l'objet Monsieur Trump est celle pour possession de documents classifiés.
Il y a toute une série d'autres problèmes liés à la prescription. Le fait qu'il n'ait pas précisé exactement quel était l'autre délit commis et qu'est-ce qui fait de cette affaire un crime.
Actuellement, Trump n'a pas de documents classifiés en sa possession, selon son avocat, James Trustee.
Nous avons fait preuve de professionnalisme et d'éthique et nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne le respect de la citation à comparaître.
Si M. Trump reste inflexible, des amendes substantielles, voire des peines de prison, ne sont pas à exclure dans d'autres affaires, notamment des tentatives présumées visant à renverser le résultat des élections de 2020 et à attaquer le Congrès des États-Unis le 6 janvier 2021. Claire Finkelstein, professeure de droit, nous en dit plus.
Une conspiration séditieuse ou une insurrection au titre du 14e amendement, section 3, signifierait qu'il ne pourrait plus occuper de fonctions fédérales.
Les experts juridiques affirment qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'une éventuelle condamnation soit prononcée dans le cadre de l'une de ces enquêtes avant l'élection de 2024. Monsieur Trump, qui a perdu les élections de 2020, est à nouveau candidat à la présidence.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction et l'équipe de production. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à ce programme. L'actualité continue sur voafrique.com. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, VOA Afrique. Excellente soirée à toutes et à tous.